L'État, c'est ainsi que s'appelle le plus froid des monstres froids, et il ment froidement, et le mensonge que voici sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Maxime Gorki. Le mensonge est la religion des esclaves et des patrons. Jeudi 26 avril 2007. Le mauvais siècle 6, les Warburg. Nous aurons un gouvernement mondial, qu'on le veuille ou non. Reste à savoir si le gouvernement mondial sera établi par consentement ou par conquête. James Paul Warburg, 17 février 1950, au Conseil des relations internationales des États-Unis. Origine. Quittant l'Italie au XVIe siècle, cette famille prend le nom de sa ville d'adoption, Warburg. Il déménage encore un siècle plus tard, cette fois à Altona, près de Hambourg où ils demeureront jusqu'en 1945. C'est en 1798 que les frères Gerson et Moïse Marcus Warburg fondent une banque, la Monsieur Warburg & Company, qui deviendra une des grandes banques d'Europe et existe encore aujourd'hui. Ce sont les Warburg qui feront le pont entre les intérêts bancaires européens des Rothschild et les capitaux états-uniens des Rockefeller, Morgan, Ford, Harriman et Vanderbilt. Jacob Henry Schiff. Il naît à Francfort, d'une famille confinée au minuscule ghetto où le décret datant de Frédéric Ey force encore les Juifs à s'entasser. Il faut savoir que la plupart des villes d'Europe traitent les Juifs comme des animaux, et les cantonnent à des sections définies des agglomérations, souvent murées. Il est bon également de rappeler qu'à l'époque, la majorité des confessions chrétiennes limitent les transactions financières, et découragent le commerce. C'est pour cette raison sans doute que dans l'Europe post-médiévale assoiffée de capitaux, l'on tolère les Juifs. Pour leur utilité économique. Cela a pour effet, paradoxalement, d'enrichir quelques-unes de leurs familles tout en attisant les haines, peurs et jalousies des bourgeois chrétiens, ressentiments qui vont mijoter durant des siècles, jusqu'à nos jours, propagés par l'ignorance, la désinformation et la simple connerie humaine, ultime énergie renouvelable. C'est dans ce contexte que la famille Schiff se retrouve à partager une étroite maison avec les Bauer, dont l'emblème familial est un écu rouge, en allemand, Rothschild. Jacob Schiff déménage aux EU en 1865 et, irrigué des capitaux de ses maîtres les Rothschild, devient rapidement le dirigeant de Kuhn Loeb & Company, qui grossit jusqu'à représenter une des plus importantes banques de l'hémisphère. Il rachète l'immense chemin de fer Union Pacific, le plus imposant réseau ferroviaire d'Amérique. À la suite d'une manœuvre classique, il réussit à faire élire quelques représentants au Congrès qui, en retour de part dans l'entreprise, subventionnent lourdement les achats de terrain de la compagnie. Cette affaire éclate au grand jour et est connue comme le scandale du crédit immobilier de 1872. Comme c'est souvent le cas, les responsables s'en tirent sans anicroche, et quelques boucs émissaires se contentent de faire semblant de jouer à la chaise musicale. Résultat, un profit net de 21 millions, 63 milliards en dollars d'aujourd'hui. Schiff et les Warburg organisent en 1898 la cession de la Union Pacific Railroad à un certain spéculateur du nom de E. Harriman. Pogrom. Les attaques contre les communautés juives remontent aux croisades. Il y eut le massacre du château de York, en 1190. Puis lors de la peste noire de 1348, une hystérie mystique se déchaîna sur l'Allemagne et des exterminations eurent lieu dans une dizaine de villes, jusqu'à 100 000 morts en quelques mois. Cependant, on appelle pogrom les attaques ciblées, répétées, et ambitieuses, perpétrées contre les Juifs au XIXe siècle. Le terme passe dans le vocabulaire occidental vers 1881, alors qu'une vague de massacres engloutit le sud-ouest de la Russie impériale, après l'assassinat du tsar Alexandre II, dont un des meurtriers était, accessoirement, d'origine juive. Maisons brûlées, tortures, viols, enfants battus, meurtres, des milliers de victimes. Histoire de calmer les esprits, le nouveau tsar, Alexandre III fait porter la responsabilité de ces horreurs sur les Juifs eux-mêmes. Étrangement, les pogroms se poursuivent pendant trois longues années. Le mouvement sioniste naît dans ces circonstances-là. Beaucoup de Juifs entreprennent d'émigrer aux États-Unis, alors que l'idée fait son chemin d'un retour à la terre ancestrale, dans le contexte où aucun pays, le Canada non plus, en passant, ne semble prêt à les considérer comme des citoyens à part entière. Les choses ne s'améliorent pas sous Nicolas II, elles s'enveniment. En 1903, plusieurs milliers de Juifs sont tués, et des dizaines de milliers d'autres blessés dans une nouvelle flambée de pogroms qui dure jusqu'en 1906. L'armée impériale, non contente de laisser les émeutes se produire, participe activement à certains massacres, comme également la police tsariste, la sinistre Okhrana. Il n'est donc pas inexplicable que certains Juifs puissants aient eu une petite dent contre le tsar et sa Russie impériale. La famille Romanov va finir par passer à la caisse. Jacob Henry Schiff consent donc un prêt de 200 millions de dollars au Japon en 1904 pour soutenir les ambitions nippones en Chine. Les territoires visés par le Japon sont occupés par agrafe la Russie. C'est l'époque où toutes les puissances mondiales se tapent la Chine, dévastée et impuissante. Les navires ultramodernes de la flotte japonaise viennent d'être livrés par la Vickers, directement d'Angleterre. C'est un désastre humiliant pour Nicolas II, qui doit retirer ses troupes, abandonner ses places fortes, et pleurer sa flotte, coulée par le fond jusqu'au dernier navire, réduite à néant. Dans les années 10, Schiff va armer les puissances centrales, ennemies de la Russie, Allemagne, Autriche, Hongrie, mais aussi l'Empire ottoman, en prévision de la Première Guerre. Lorsque le conflit éclate en 1914, il prête aussi de l'argent à la France pour qu'elle s'arme contre ces mêmes puissances centrales, tout en recommandant à tout le monde de faire la paix le plus tôt possible. Il usera finalement de son influence sur Woodrow Wilson pour pousser les États-Unis à intervenir à leur tour. Jacob Henry Schiff préparait depuis une dizaine d'années, en collaboration avec le Kaiser allemand, le financement de la révolution russe. En 1917, la rébellion embrase toute la Russie et paralyse le front de l'Est, ce qui a pour effet de rallonger la guerre de 2 ans. Les États d'Europe sont ruinés. Qu'à cela ne tienne, on va leur prêter encore quelques centaines de millions. Schiff investit massivement dans le gouvernement bolchévique de Lénine, favorisant sa victoire sur les autres factions révolutionnaires. La dette bolchévique, contractée à Wall Street, sera honorée dans les années 20 et je vous expliquerai comment. La fille de Jacob Schiff devient l'épouse de son partenaire chez Kounessi, Félix Warburg. Les frères Bank. Au début du mauvais siècle, les quatre frères Warburg se séparent. Abby Moritz Warburg quitte la planète bancaire, et part à Florence où il devient collectionneur, et se passionne pour l'histoire de l'art. Les frères Paul et Félix vont s'installer à Wall Street, New York, où ils s'achètent une participation dans l'affaire Kuhn, le B Company de Jacob Schiff. Max reste derrière, et dirige la banque paternelle, Monsieur Warburg et Company. À Hambourg. Il est un des conseillers importants du Kaiser Wilhelm II, et à l'orée de la Première Guerre mondiale, finance et organise son armement. En 1913, Paul Moritz Warburg dirige le petit groupe Select qui réussit un des plus gros hold-up de toute l'histoire de l'humanité, la création de Federal Reserve Bank. Il y avait déjà près de 75 ans que les banquiers de toutes les moutures tentaient le coup. Les présidents Lincoln, McKinley et Garfield ont été assassinés pour s'y être opposés. Je vais tenter de vous expliquer la chose. Petite histoire du fric mou. À l'origine, les possédants déposaient leur or dans la voûte d'un orfèvre. Pour chaque dépôt, celui-ci remettait une quittance, équivalente au poids de l'or qui lui était confié, d'où le nom de livre, pound, peso, lira, etc. Rapidement, les gens se mirent à s'échanger ces quittances, plus pratiques à transporter que des kilos de métal encombrant, pour régler leurs achats ou leurs dettes. Éventuellement, les orfèvres se rendirent compte que plus personne ne venait chercher cet or, qui changeait de main de nombreuses fois mais dormait tout ce temps à la cave. Ils eurent l'idée d'acheter des propriétés à revenus avec cet or, puisqu'il ne servait à rien. Puis, ils réalisèrent qu'ils pouvaient prêter plusieurs fois l'équivalent du véritable magot en leur possession, et en tirer un intérêt, sans jamais se faire prendre. La banque était née. Cependant, lorsqu'un orfèvre possède 10 livres d'or et met en circulation 100 livres de quittance, il dévalue la quittance de 90% dans le monde réel. C'est-à-dire que si tous les dépositaires viennent en après-midi reprendre leur or, leurs 100 livres de quittance ne leur permettront pas d'obtenir un copec de plus que les 10 livres d'or reposant sur la tablette du coffre, et il y aura ce qu'on appelle un crash.